à tous et bienvenue à Portrait vivant sur les ondes de CADA 99.fm, l'émission qui peint un portrait vivant de la communauté créative de l'École d'art de Sutton. Aujourd'hui, notre épisode est consacré au lien profond entre l'alimentation et la spiritualité autochtone. Dans le contexte du Petit Salon du Livre, nous avons reçu Lisanne et Nicole Obomasawen, mère et fille, qui œuvrent avec passion à la transmission des savoirs traditionnels. Lisanne est chef cuisinière et autrice du livre « Cuisine autochtone », tandis que Nicole, anthropologue, muséologue et conteuse, est autrice de livres jeunesse, dont « Les Algonquiens ». Toutes deux ont partagé avec nous leur vision de la relation entre l'alimentation, les traditions spirituelles Abénaki et la nature, devant un auditoire composé d'adultes et d'enfants à l'École d'art de Sutton. Aujourd'hui, on a le plaisir de passer une heure au complet avec nos invités spéciales. Restez à l'écoute pour une conversation riche en savoir, en contes et en chansons traditionnelles.
Quoi et tout le monde? Je suis ici avec en compagnie de ma mère. Hein? Donc, Nicole Obomasawen est ma mère. Moi, je suis Lisanne Obomasawen. Aujourd'hui, on va vous parler d'alimentation et de spiritualité parce que les deux souvent vont ensemble. Alors, Nicole, qui est à côté de moi, souffre de surdité sévère, donc il va falloir que je parle lentement pour que sa transcription puisse être capable de lire là ce que je suis en train de dire. Et elle va pouvoir prendre la parole par la suite. Donc, Nicole, pour faire un petit topo, Nicole écrit un livre qui est un livre de contes à Abénaki. Donc, elle parle souvent aussi justement de spiritualité, de culture. Elle est là pour transmettre la culture autochtone, la culture abénakise plus précisément. Moi, de mon côté, je suis une chef cuisinière. J'ai décidé de faire un livre de recettes qui s'appelle « Cuisine autochtone », qui est en trois volets, qui est de la cuisine traditionnelle jusqu'à la cuisine contemporaine. Pour la présentation que nous décidons de faire aujourd'hui, on va vous parler de plus de, du côté culturel qui est mélangé à l'alimentation. Donc, pour commencer, si vous connaissez un peu la culture autochtone, est-ce qu'il y en a qui la connaissent légèrement, peut-être? un petit peu. Pour ce qui est de la culture autochtone, souvent, on était dans un mode de survivance hein, à l'époque. Et donc, quand on avait affaire à des peuples nomades ou chasseurs-cueilleurs, on avait à suivre les saisons. Et pour nous, c'était très important, à chaque fois qu'on avait affaire à se nourrir, de remercier le Créateur de nous donner cette nourriture-là. On était très reconnaissant parce qu'on était en mode survivance. Et que lorsqu'on est en mode survivance comme ça, on ne sait pas si on va manger le lendemain matin. Hein? C'est pas comme aujourd'hui qu'on a juste besoin d'aller à l'épicerie. Qu'est-ce qu'on a envie de manger? Hein? On est plus dans l'envie, dans le choix. À l'époque, c'était pas le choix, mais bien qu'est-ce qu'on va manger et est-ce qu'on va manger? Hein? Cette phrase-là, c'est rare qu'on l'entend. Il y en a encore, malheureusement, dans un monde dans lequel on vit, il y en a qui vont se poser la question à savoir s'ils vont manger demain matin. Mais nous, c'était notre quotidien, surtout lorsqu'on arrivait en hiver. Les mois, les noms des mois, sont souvent expliquent un peu le moment de l'année. Qu'est-ce que cela signifie? Comme par exemple, pour le mois de mars, la première lune du printemps, c'est la lune Mose. C'est la lune de l'orignal. L'orignal, pourquoi? Parce que c'est lui qui annonce le printemps en premier. Quand il marche sur le lac et que ses pattes renfoncent dans la glace parce que la glace, elle est rendue trop mince. Alors, c'est le début du printemps. C'est comme ça qu'on le ressent. Chez nous aussi, quand on décide de faire le printemps, je crois que tous les peuples, jusqu'à aujourd'hui, du moins certains peuples, surtout plus primitifs, étaient plus près des mois qu'on avait. Et donc, quand on décidait d'expliquer un peu le moment, on se demandait toujours, en tout cas du moins en Amérique du Nord, quand on avait affaire à calculer les années de quelqu'un, c'était combien d'hiver, tu vois? Parce que c'était l'hiver qui était le plus dur, hein? Il y a un poète là, très connu au Québec qui va dire que ici au Québec, il y a l'hiver et le mois de juillet. Nous, on sait qu'il y a quatre saisons, là. Et on l'avait toujours expliqué de cette façon-là aussi sur nos 13 lunes dans une année. Donc, pour la lune du printemps chez nous, l'année débute pas le 1er janvier. Elle débute au mois de mars. elle débute quand que le printemps revient, quand la vie revient. Et c'est là que c'est important finalement. Quand la vie revient, c'est que l'eau, la glace part. Donc, on a maintenant accès à l'eau. On a aussi accès à l'eau d'érable, qui est très important chez nous. Et on a aussi accès à la nourriture. Aller à la pêche, au lieu de la pêche blanche, on va retourner à la pêche normalement. Les outardes, quand on entend les wampagois, c'est ça, comme ça qu'on les appelle chez nous, les oies, à cause de leur du son que les oies font. Eh bien, ça annonce le vrai printemps. Et là, on peut vraiment festoyer le printemps. C'est le début d'une année d'abondance qu'on souhaite. Donc, je ne sais pas si ma mère veut raconter un peu l'histoire, la légende du sirop d'érable chez nous, parce qu'on a une.
Donc, le printemps, c'est le nouvel an. Puis, le nouvel an, le signal du nouvel an, en fait, c'est l'arrivée des outardes. Donc, être capable d'être bienveillant pour accueillir les outardes qui arrivent, parce que c'est de la bouffe fraîche. Donc, on remercie les outardes, mais aussi c'est le moment de se rassembler pour aller recueillir la sève d'érable. Puis nous, on dit que la sève d'érable, c'était le moment où tous les gens partaient de leur quartier d'hiver pour se rassembler dans les érablières. Donc, c'était vraiment comme une célébration du nouvel an. On raconte que comment on a su que l'eau d'érable était bonne pour nous? On raconte que c'est à cause du grand pic. Le grand pic cherchait de la nourriture au printemps, puis a commencé à picosser un érable. Puis de son bec a coulé une eau, et là, mais lui est parti. Il a trouvé sa nourriture, il est parti. Mais c'est les écureuils roux, qui sont curieux comme ils sont, agiles, sont allés mettre leur petite langue rose sur l'eau qui coulait de cette entaille faite par Grand Pic. Puis là, il est tout nerveux, il a averti toute sa famille que c'était bon, que c'était sucré. Puis on dit que c'est en les observant que les Abénakis ont appris que cette eau était sucrée, était bonne à boire. Donc, il y a beaucoup d'autres histoires, beaucoup plus longues, qui racontent comment on a su qu'on pouvait la faire bouillir, comment c'est devenu un autre attrait au goût. Mais ça, c'est un exemple d'un petit peu d'une histoire, d'une anecdote qu'on raconte. Au-delà de ça, comme c'est la nouvelle année, on souhaite nos vœux de bonne année. On souhaite nos vœux, mais pas avec un micro. Un à un, à chaque individu, on raconte en disant « On halda maoui, kasi pali la waolan, ne que si dal damoul, ou li le gwadi gadun. » À vous. En fait, ça veut pas simplement dire « bonne année », ça veut dire « je demande pardon si j'ai fait de la peine par l'année qu'on vient de passer, et maintenant je nous souhaite à tous les deux une bonne nouvelle année. » Donc, c'était le début. Puis, on avait comme une lune pour faire ses vœux à chacun. Donc, on n'était pas pressé dans une journée de dire « bonne année, bonne année ». Ça se faisait sur une période d'à peu près un mois, avant que les gens repartent pour d'autres activités. Donc, en gros, c'était ça. De ça, il y avait un certain rituel qui accompagnait aussi le nouvel an, comme par exemple couper une mèche de cheveux au printemps, le mettre au feu pour dire que ce qu'on a fait, c'est du passé, maintenant on va en avant. Donc, c'est un rituel que moi j'ai associé en fait au retour des outardes. Quand les outardes arrivaient, je me coupais un bout de cheveux, parce que, bien sûr, aujourd'hui, on se rassemble plus dans les érablières. Mais on a quand même gardé les histoires, on a quand même gardé des recettes, et on a quand même gardé certains rituels qui accompagnent l'arrivée du printemps.
L'arrivée du printemps, chez moi, c'est aussi l'arrivée de ma fille. Ma fille est née à la lune du printemps, la lune Sogalikas. Et donc, j'ai nommé ma fille Sogali. qui veut dire sucrerie, lune sucrée. Alors, c'est la lune, justement, d'avril. Hein, c'est là qu'on va profiter de ce moment-là pour aller chercher l'eau d'érable et en faire un paquet de sucre aussi. Hein. On faisait les sucres hein, dans le temps, faut pas oublier ça. Hein. On faisait les sucres, on faisait pas juste bouillir du sirop d'érable, le mettre en canne puis s'en servir. Ça, c'est très, 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 très récent. Si on recule de jadis naguère, c'était le sucre d'érable qu'on faisait. Hein, on le faisait bouillir jusqu'à temps qu'il devienne du sucre et on en faisait chez nous, chez les Autochtones, on les mettait dans des petits cônes, en écorce, qu'on mettait notre sucre d'érable dedans et qui permettait aux jeunes un peu moins tannants de pouvoir se sucrer le bec. Donc, il n'y avait pas de cornets de tir, c'était des cornets de sucre qu'on donnait et à une certaine époque, pour nous, on donnait ce cône-là à quelqu'un qu'on apprécie. C'était en signe d'amitié. Chez les Québécois, il y avait aussi cette tradition-là. On la partage, cette tradition. Où est-ce qu'on mettait du sucre d'érable dans des moules de sucre d'érable? Le plus significatif des moules, c'est un moule en forme de cœur saignant. Alors, on mettait le sucre dedans et on l'offrait à notre douce moitié. Ou parce qu'on était en amour avec quelqu'un, on offrait ça. C'était quelque chose, on préparait tout l'hiver. Hein, on sculptait, on faisait un beau moule pour la personne qu'on aimait. Donc, on prenait le temps de pouvoir le faire. C'est très significatif quand même, hein? Un cœur de sucre. Mon petit cœur en sucre. Vous l'avez déjà entendu, celle-là, hein? L'expression. Donc, ça, c'est pour le mois, justement, d'avril. Quand on arrive au mois de mai, c'est le mois de la Terre. Maintenant, on fête la Terre au mois d'avril, là. Ça doit être à cause des changements climatiques, là. On devance un peu les choses. Mais pour les Abénakis, le mois de la Terre, c'est le mois de mai. Car c'est là qu'elle dégèle et qu'on peut préparer la Terre aux récoltes. C'est aussi là qu'on va aller récolter le frêne pour pouvoir faire nos paniers de récolte. C'est là aussi qu'on va cueillir nos têtes de violon. C'est là aussi qu'on va aller chercher nos cœurs de quenouille. Alors, il y a quand même beaucoup de choses qu'on va aller chercher au mois de mai, juste avant le premier mois de l'été, qui est le mois des petites fraises. Et on nomme ce mois-là les petites fraises parce que c'est le premier fruit qui vient annoncer aux autres petits fruits de pousser. Tu peux m'en expliquer?
Que tu veux chanter?
Je vais chanter, ouais. Il y avait un chant de femmes là-dessus qui était pour amener les petites fraises. C'est vraiment un chant de femmes. Il y en a qui vont dire, non, c'est un chant d'hommes. Un chant de femmes. Alors, c'est un chant de femmes pour... parce que nous, on allait à la cueillette. C'est les femmes qui allaient à la cueillette. Hein? Donc, on allait à la cueillette des petites fraises. On est là pour aider les petites fraises à pousser. On jugeait chez les Abénakis. Hein, dans le monde de la création, on ne vous a pas parlé de la création parce qu'on n'a pas le temps, là. Juste l'histoire de la création prend 45 minutes. Mais pour l'histoire dans la création, les Abénakis, leur rôle premier, c'est de prendre soin de la terre. Elle est déjà là, elle est prête pour nous. Et en échange, nous, on doit prendre soin d'elle. On fait partie d'elle. Hein, on n'essaie pas de la dominer, on fait partie de cette terre-là et on est là pour l'aider. Ok, alors c'était notre rôle à nous. Alors pour les petites fraises, on va les aider à pousser. Ah oui ah, ah oui ah, Guanoda, 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 ah oui ah. Ah oui ah Guanoda, ah oui ah, 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 ah oui ah Guanoda, ah oui ah. Ah oui, ah, Guanoda. Alors, le chant des petites fraises, vous avez vu, hein? Ça n'a pas pris de temps, vous l'aviez déjà dans la tête. Alors, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de musique avec des onomatopées, hein? D'ailleurs, j'ai oublié de chanter le chant de l'eau. Je le ferai plus tard. Mais le chant des petites fraises, c'est ça. Donc, c'est fait justement pour que tout le monde puisse y participer, peu importe la nation qu'on rencontre, hein, qu'elle soit capable de chanter avec nous. Alors, c'est pour ça qu'on fait des onomatopées. Puis, à travers ça, je sais pas si vous avez vu, j'ai joué du Sisiwan, le hochet. J'ai joué du Sisiwan, puis en jouant, à un moment donné, j'arrête d'en jouer. C'est pour la mémoire de celles qui sont parties, que nous, étant donné qu'on croyait à la réincarnation, on disait qu'elles étaient là aussi encore avec nous, sous d'autres formes. Et c'était elles qui chantent pour aider les fraises à pousser.
Alors, pour parler des fraises, disons que la fraise est spéciale parce que c'est le premier fruit. Ben, c'est le fruit qui annonce l'été. Mais au-delà de ça, c'est le premier fruit de l'année. Donc, pour nous, la fraise a un esprit. C'est, dans notre langue, on n'a pas de genre masculin, féminin. On a des genres animés et inanimés. Donc, la fraise est un fruit animé, alors que le bleuet est un fruit inanimé. Pourtant, il se mange, c'est bon. Mais la fraise, parce que c'est le tout premier, on dit que c'est la mère de tous les fruits. Si la mère est pas là, il y aura pas d'autres fruits. Ça s'explique très bien parce que s'il y a des gelées, au moment où les fraises sont en fleurs, ben, probablement qu'il y aura pas beaucoup de fraises, puis pas beaucoup d'autres fruits. Mais, en tout cas, dans notre vision du monde, le fruit, c'était la fraise, c'était la mère des fruits. Et c'est un fruit qui est animé. Donc, puis c'est pas seulement chez les Abénakis, faut le rappeler. Chez les Iroquois aussi, chez les Wendat, chez les Mohawks, la fraise, c'est l'occasion de célébrer l'été, mais célébrer l'arrivée de ce petit fruit-là qui vient nous enjoliver notre vie, en fait, agrémenter notre alimentation. D'ailleurs, on fait un breuvage encore aujourd'hui qui est un mélange de fraises écrasées et de canneberge. Parce que la canneberge, c'est le dernier fruit de l'été. Donc, on met les deux fruits ensemble pour apporter toute l'énergie, la meilleure énergie à ceux qui vivent. Donc, quand on fait des cérémonies, par exemple, le rituel de la tente tremblante ou le rituel de ce que vous appelez Sweat Lodge. Donc, quand on fait ces rituels-là, pas nécessairement, ça peut être autre chose, mais la première chose qu'on va boire, ça va être ce fruit, ce jus préparé avec la fraise et la canneberge. Pour aujourd'hui, on rajoute un peu de ginger ale pour donner un petit peu de revigorant. Mais ça, c'est une nouvelle recette.
Ben après tout, le ginger ale puis la bière d'épinette sont la première boisson qu'on a partagée avec vous dans l'arrivée de la Nouvelle-France, hein? On y a plein de cruches de ginger ale, justement, de bière de gingembre, qui se retrouvent encore disponibles dans les antiquaires, là, chez les antiquaires souvent. Alors, ça rappelle un peu ce côté-là. La bière de gingembre ou la bière d'épinette, c'est quelque chose qu'on a partagé ensemble. Donc, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on la modifie, la recette. En tout cas, j'ose espérer. Sinon, pour le reste, rajouter quelque chose au niveau de la petite fraise, quand j'ai fait mon livre de recettes, il y a eu cette année 2023, qui est pas si lointaine, mais que je tiens à vous rappeler qu'il y avait 123 feux de forêt qui se passaient fin mai, début juin. Ça a eu un énorme impact sur notre environnement. Moi, principalement, j'ai vu ça parce que je devais faire mon livre de recettes et avoir des denrées. Et c'était extrêmement difficile d'avoir la petite fraise. Pourquoi? Parce que la petite fraise, on a besoin qu'elle soit butinée. Hein? On a besoin d'avoir d'avoir des pollinisateurs qui viennent. Et quand il y a trop de fumée à cause des feux de forêt, il n'y a pas de butineurs. Ils ne viennent pas. Et donc, ça a eu un impact sur un paquet de fruits par la suite. J'ai eu une année d'enfer à aller chercher les fruits de saison cette année-là. Donc, on s'en rend pas compte, mais l'environnement autour de nous est extrêmement fragile et un petit rien peut bouleverser une année entière et des fois plusieurs années. Donc, on est rendu au mois de juillet, qui est le mois du foin d'odeur. C'est le mois où c'est qu'on peut justement commencer à faire la spiritualité. On va amener le foin d'odeur et le tabac. C'est pour nous, ben, il y a aussi la sauge. Ce sont des plantes qui, pour nous, est très important quand on fait nos cérémonies. Et donc, d'aller les chercher était très important. Je vais laisser Nicole en parler davantage parce qu'elle a une petite boîte à vous montrer.
Donc, c'est sûr que le mois de juillet, c'est spécial parce que c'est le moment où pousse le foin d'odeur. Ce foin merveilleux avec une senteur qu'on peut pas oublier. Moi, j'ai grandi avec cette odeur-là. Dans les maisons, les femmes recueillaient le foin d'odeur, tressaient le foin d'odeur, puis il y en avait dans toutes les maisons avec le frêne pour faire les paniers. Dans chacune des maisons, cette odeur-là, c'était pas l'odeur de du parfum à canette. C'était une odeur de nature. Donc, puis j'ai des anecdotes sur le foin d'odeur aussi parce que mon père, jeune garçon, partait pour la cueillette du foin d'odeur. Partait pour la cueillette du foin d'odeur en canot. Partait sur le fleuve, le lac Saint-Pierre, le fleuve. Puis s'en allait dans les îles de Sorel, dans les îles de Boucherville, pour cueillir cette herbe-là. Puis il revenait avec le foin d'odeur chargé au rebord du canot, en longeant le bord de l'eau. Puis en arrivant, en revenant vers Odanak, déposait ça, l'entrée, les femmes attendaient le foin pour commencer à le préparer, commencer à le peigner, à le nettoyer, puis à le distribuer dans les familles. Moi, j'ai pas connu, c'est l'époque de mon père. Mais moi, ce que j'ai connu, c'est l'odeur. L'odeur de sucre de ce foin-là. Donc, on l'appelle Mskikouis, le petit foin. Comme quelque chose qui est petit, c'est précieux. Comme un bébé. On dit un bébé, c'est Tidis. Is, c'est précieux. Tidis, c'est la façon dont nous, on appelle les bébés. Mais dans le fond, ça veut dire petit bout d'oignon sauvage. Donc, c'est le nom qu'on donnait à nos enfants. En fait, le petit bout d'oignon sauvage, c'est de l'ail des bois. Donc, c'est quelque chose de précieux que si on tire trop vite sur la tige, on va le défaire, il poussera plus jamais. Donc, c'est comme ça qu'on voyait nos enfants, pas tirer dessus pour qu'ils poussent trop vite, mais grandir à leur rythme. Donc, is, c'est précieux. Mskikouis, le petit foin, donc, c'est précieux. Ça rappelle aussi. Donc, au-delà du foin, il y a bien sûr le foin d'odeur qui est tressé. On dit quand on tresse le foin d'odeur, on tresse aussi la bienveillance, la générosité et la bonté de la Terre-Mère. C'est bien de s'en rappeler quand on tresse nos propres cheveux aussi. Comment on doit être lié avec la Terre. Donc, le foin d'odeur est considéré, nous, on s'en servait pour faire des paniers, mais c'est considéré comme une herbe sacrée, une herbe qui sert pour les cérémonies, pour attirer les bonnes énergies. D'ailleurs, on dit que la sauge était celle qui était employée pour chasser les mauvais. Et le foin d'odeur pour attirer les bonnes énergies. Donc, on devait toujours employer les deux. Parce que pour nous, la sauge, c'est masculin et le foin d'odeur, c'est féminin. Et donc, quand on fait brûler des herbes, on doit les faire brûler ensemble. Donc, bien sûr, il y a aussi, en juillet, la cueillette du tabac. Donc, le tabac, aujourd'hui, on sait que le tabac, c'est pas toujours sacré. Mais, pour nous, c'était vraiment une herbe sacrée. Je pourrais pas vous raconter toutes les légendes associées, parce qu'il y en a beaucoup, qui expliquent comment le tabac, pour nous, était sacré. Donc, on dit que c'est l'herbe préférée du grand esprit, et que si on veut remercier la terre, par exemple, pour la cueillette, ou peu importe, pour les médecines, la médecine qu'elle nous donne, si on veut la remercier, on offre du tabac. Pas du tabac à chaque plante, mais on offre du tabac. Et d'ailleurs, mon grand-père m'a raconté que, en s'en allant sur la Saint-Maurice, près de grand-mère, Coquemessa, grand-mère, il y avait un rocher qui avait la forme d'une grand-mère. Et là, tous les canaux offraient du tabac à la grand-mère pour faire un bon voyage plus au nord. Donc, ça, c'est des histoires qu'on m'a racontées avec le tabac. Le tabac aussi, une histoire qu'on m'a racontée quand j'étais tout petite, l'histoire que on offrait du tabac aux petits êtres des bois pour s'assurer de faire une bonne promenade dans la forêt. Donc, on disait que les petits êtres des bois étaient pas méchants, mais qui pouvaient jouer des tours. Et c'est pour cette raison qu'on devait leur offrir du tabac avant d'entrer dans le bois. Donc, ça, c'est des histoires que moi, j'ai entendues par la voix de mon grand-père quand j'avais peut-être 7 ans, 8 ans. Donc, le tabac, une autre plante qui est considérée comme sacrée pour les Autochtones. Quand on veut, par exemple, avoir des enseignements auprès d'une aînée ou d'un porteur de savoir, on offre un peu de tabac pour montrer notre reconnaissance et notre appréciation de ce qu'il va nous donner comme renseignement. On donne pas après, on donne avant. Ça aussi, c'est important. On sait déjà que les enseignements vont être bons. Donc, on n'attend pas que ça soit fini, puis on offre du tabac. On l'offre d'abord. Puis une dernière médecine pour nous, c'est la médecine du serpent, de la couleuvre. Je sais que pour la plupart, la couleuvre, vous aimez pas ça. Mais c'est des petits êtres inoffensifs. Et pour nous, les couleuvres, c'est des porteurs de messages. Donc, ils se faufilent, ils vont porter des messages. Puis on a tout plein d'histoires que j'ai pas le temps de vous raconter maintenant, mais tout plein d'histoires qui sont reliées au fait qu'on parle de la couleuvre. Et d'ailleurs, chez nous, la première danse qu'on fait, qu'on monte au tout petit, puis qu'on fait encore aujourd'hui dans nos activités communautaires, c'est la danse de la couleuvre, qui permet à tout le monde d'être lié, petit, grand, aîné et jeune. Donc, la danse de la couleuvre pour honorer cet être vivant qui nous apporte aussi de la médecine.
À m'envoyer la poque. OK. Alors maintenant, quand on arrive vers le mois d'août ou mois de septembre, on arrive au mois des récoltes. Le mois des récoltes, c'est le temps de remercier la Terre-Mère parce que elle va nous apporter les récoltes de nos trois sœurs. Si vous connaissez pas les trois sœurs, c'est la courge, le maïs et l'haricot qui poussent tous les trois ensemble. On a tendance à oublier sa petite quatrième sœur, par exemple, qui est la graine de tournesol. On a souvent besoin du tournesol autour de ces plants-là parce que le tournesol est une plante qui est un insecticide naturel. Alors, il va repousser certains insectes nuisibles qui pourraient s'attaquer aux plants. Alors, on a tendance à l'oublier, celle-là, mais elle en fait partie. Et en même temps, ça apportait une belle source de protéines aussi pour les peuples qui étaient un peu plus iroquois et qui avaient tendance à être un peu plus végétariens parce qu'ils étaient sédentaires. Chez nous, comme on était les deux, on était à la fois ce qu'on appelait semi-nomade ou semi-sédentaire, c'est qu'on avait affaire quand même à faire les deux. Alors souvent, quand on plantait au printemps, au mois de mai, puis après ça, à la fin, rendu au mois d'août ou au mois de septembre, ben on allait récolter ce qui avait peut-être poussé ou peut-être pas, rempli de mauvaises herbes et tout. C'était pour nous quelque chose qu'on était pour ajouter à notre alimentation qui était déjà très riche autour de nous. C'était un supplément. Donc, pas notre nourriture principale chez les Abénaki. Donc, quand on arrivait à cette période-là, on allait remercier la Terre-Mère. Et en remerciant la Terre-Mère, on va remercier le Soleil aussi d'avoir été avec nous toute l'année. Et on va lui rendre hommage, finalement. Et encore là, c'est un chant de quoi? C'est un chant de femme. Donc, pour remercier la Terre-Mère... Yanigawe, 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 Yanigawe. On a les gueux, hi ha, one ho. On a les gueux, hi ha, one ho. On a le gué, gué, hi, ha, one, ho. On a le gué, gué, hi, ha, one, ho. On a le gué, gué, hi, ha, one, ho. On a le gué, gué, hi, ha, one, ho. On a le gué, gué, hi, ha, one, ho. On a le gué, gué, hi, ha, one, ho. Ya ni ga we, ya ni ga we. Ya ha ha ni ga we, ya ni ga we, ya ni ga we, ya ha ha ni ga we. On a le gué, hi ha one ho. 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 Alors, durant cette période-là, justement, on va aller recueillir ce qui... C'est le temps de la chasse hein, aussi, c'est le temps des récoltes, c'est le temps de la chasse, c'est le temps qu'on va essayer d'emmagasiner le plus de choses possible. C'est pas pour rien qu'il y a l'action de grâce, le Thanksgiving qui va arriver durant l'automne, plus vers le moment où est-ce que ce qu'on appelle l'été des Indiens, OK? C'était la période où est-ce qu'on avait une période d'échange, un moment de redout qui nous permettait de pouvoir faire ces échanges-là. Elle rentre vraiment dans l'ensemble de ce qu'on a à respecter en tant qu'humain. Dans le cercle, on a ce que nous, on appelle une roue de médecine. Et la roue de médecine, ça comprend On dit que c'est comme un peu notre façon, c'est comme notre Bible à nous. OK? La roue de médecine nous explique la vie, en fait. Elle est séparée toujours en quatre, en croix, comme ça, parce que pratiquement tout est fait de corps de quelque chose. OK? Si on parle des saisons, il y a quatre saisons dans une année. Hein? Quand on parle de la vie, il y a la naissance, la petite enfance, il y a l'adulte et il y a l'aîné. Hein? Où on parle toujours de cette espèce de cercle-là quand on décide de faire cette roue de médecine-là. À travers la roue de médecine, il y a aussi les quatre coins cardinaux, comme on peut voir, les quatre couleurs qui sont là. Et il y a aussi à travers ça le côté mental, le côté spirituel, émotionnel et physique. Pour nous, c'est ça la médecine. Hein? C'est une médecine pour se guérir la tête. On a souvent tendance à vouloir guérir toujours ce qui est physique. Il y a le côté physique ici présent pour pouvoir prendre soin de soi, oui, parce que on doit nourrir le corps et on doit en prendre soin du corps. Mais au-delà de ça, il faut prendre soin aussi de la tête. Et souvent, celle-là, on l'oublie. Alors, il y a une façon aussi d'être là. Le côté spirituel aide souvent à nous donner foi, à nous donner l'énergie nécessaire pour poursuivre, c'est important aussi. Donc, souvent, on a affaire à... Là, c'est un petit jeu, là. Je sais pas si on va avoir le temps de passer. Peut-être à la fin, si vous voulez venir.
Expliquer aux enfants.
Oui, et parce que justement, il nous reste juste 6 minutes. Fait que c'est pas très long, là. Il nous reste juste 6 minutes. Fait que, comme c'est très, très rapide, vous viendrez tourner votre roue, si vous voulez, pour savoir qu'est-ce que vous devrez faire dans les prochains jours pour prendre soin de vous. En dehors de ça, on a aussi un autre petit jeu. On pourra vous inviter à venir piger une carte spirituelle qui pourra vous aider à dire un peu, c'est une phrase, un peu comme l'astrologie. C'est une petite phrase à garder pour soi, OK, qui fait du bien. Ça peut être une carte qui peut être donnée de façon quotidienne, mais aussi de façon annuelle. C'est des choses qu'on se doit à soi, finalement. C'est ça, la spiritualité. C'est ce qui fait la différence entre la spiritualité et la religion. C'est que la religion, c'est quelque chose de très collectif. La spiritualité, c'est quelque chose de très individuel. Ça t'appartient à soi. Mais jamais sans oublier le collectif, parce qu'on vit dans une collectivité, dans une communauté, et qu'il ne faut jamais oublier l'un à l'autre. C'est pour ça que la religion et la spiritualité autochtone ont toujours fait bon ménage, car il y a beaucoup de choses qui se ressemblent dans les valeurs. Ce sont des valeurs universelles humaines, en fait. Donc, je ne sais pas si Nicole veut rajouter quelque chose en lien, parce qu'on a vraiment peu de temps, là.
Ouais. On va manquer de temps. Il y aurait beaucoup à dire. Mais disons que chez nous, on parle de roue de médecine, mais chez nous, on appelait d'abord plus ça cercle sacré. Donc, ça correspond quand même. Ça indique, mais une chose quand même qui est importante à dire, c'est que ça fait un cycle, le cycle de l'année, le cycle de la vie, donc de la naissance jusqu'à la vieillesse. Mais une chose importante, c'est que c'est pas un cercle fini, c'est un cercle en mouvement, et que pour nous, le passé, le présent et le futur sont toujours ensemble. Donc, le passé n'est pas derrière, l'avenir n'est pas devant, on est toujours en mouvement. Donc, ça, c'est quand même important. Puis, l'autre chose peut-être mentionnée, c'est que peu importe la religion, une religion qu'on peut pratiquer, il y a toujours de la place pour la spiritualité. Puis, chacun, aujourd'hui, il y a des gens qui ont pas de religion, de grande religion, mais qui ont quand même une spiritualité très vivante, donc qui nous permet de rentrer en communication les uns avec les autres, et communication aussi avec tout ce qui est vivant, tout ce qui nous entoure. Donc, puis être capable, surtout, de lever la tête. Pas juste regarder ses pieds, ses mocassins. Regarder en haut le monde des étoiles, parce qu'elles ont beaucoup à nous apprendre aussi sur notre passage ici.
Bon, puis juste pour en rajouter avec le cycle, comme je parlais, hein, comme on a parlé tantôt, le fait que nous, on le passé, le présent, le futur est toujours quelque chose qui est continuel chez nous. Le livre de recettes que j'ai fait est en lien avec ça. Quand que je parle de cuisine autochtone, j'ai intégré là-dedans des vieilles recettes, des nouvelles recettes et des enseignements qui doivent rester. Alors, le traditionnel, le réconfortant, où la nouveauté est un tout. Et on le vit à tous les jours. C'est comme ça aussi chez l'humain. Il y a les nouveau-nés, il y a les enfants. On dit la génération future, hein? On parle tant de la génération future, mais elle est là, elle est présente, OK? Il y a la génération présente, justement. Il y a nous, en tant qu'adultes, et il y a aussi les aînés. Et tout ça fait en sorte que on cohabite ensemble et qu'on forme la société qu'on a aujourd'hui. Donc, je vous remercie, Théo Léonie. Puis si vous avez des questions, je vous invite à nous rencontrer.
Peut-être une dernière chose, parce que on a eu un séjour magnifique. Et puis, ça me fait penser que pour nous, le rêve est important. Mon grand-père me disait toujours qu'il fallait rêver quand j'étais petite. Mon grand-père racontait son rêve, ma grand-mère. Ma grand-mère, c'était pas long, mais mon grand-père, il avait plein de détails. Et puis, il me disait que c'était important de rêver, parce que si on rêvait pas, les esprits nous parlaient pas et qu'on vivrait pas longtemps. Donc, j'ai eu peur de mourir jeune. J'ai commencé à me forcer pour rêver. Plus tard, j'ai appris par mon grand-père qu'on pouvait aussi faire des rêves éveillés. Donc, merci.
Merci d'avoir été à l'écoute de Portrait vivant sur les ondes de CIDI 99.fm, l'émission qui peint un portrait vivant de la communauté créative de l'École d'art de Satène. Un grand merci à nos invités Lisanne et Nicole Obomsawin. Je serais restée vous écouter pendant des heures. Quelle conversation riche! Lisanne Obomsawin, traiteur et chef à domicile, ayant une spécialisation en cuisine du terroir québécois et autochtone, vous pouvez la suivre sur Facebook, Le Traiteur Kebenaki, ou trouver son site web, Famille FAMILLES, d'autrefois, DAUTREFOIS.org, famille d'autrefois.org. Elle a aussi un nouveau livre, Cuisine autochtone, disponible dans toutes les grandes librairies. Donc, Nicole Obomsawin, anthropologue et muséologue de formation, qui a été aussi la directrice du Musée des Abénakis, de 84 à 2006. Elle a reçu le prix Bernard Assiniwi pour ses engagements pour la promotion et la diffusion des cultures autochtones. Elle a visité des centaines d'écoles et rencontré des milliers d'étudiants au Québec pour leur partager une autre version de l'histoire, faire tomber les préjugés et les stéréotypes et pour actualiser leur image de l'Amérindien. En 2011, elle a même reçu un doctorat honoris causa de l'Université de Montréal et on l'avait rencontrée dans le contexte de son livre « Jeunesse sur les légendes autochtones ». Elle a aussi écrit deux livres jeunesse, « Les Algonquiens » et un livre sur les légendes autochtones. Je vous invite à les découvrir en librairie. C'était les jazzistes de Sutton, Paul Morin et Norman Kerr, enregistrés lors du même événement. Et maintenant, on va écouter Le Tunnel, une pièce de musique magique par Serge-André Jones, pianiste et collaborateur de longue date avec l'École d'art de Sutton. Merci à tous.
Thank you.
Ce projet est rendu possible par le gouvernement du Canada ainsi que le Fonds canadien de la radio communautaire.